Ésaïe chapitre 46 et 47, c'est donc vivre dans la réalité. Et je vais commencer en lisant les deux premiers versets d'Ésaïe 46. Bel s'écroule, Nébo tombe, en place ses statues sur des animaux, sur des bêtes, vous les portiez et voilà qu'elles sont chargées comme un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils sont écroulés ensemble, ils sont incapables de préserver leur image et partent eux-mêmes en déportation. Des idoles ne durera pas, nous avons déjà vu au chapitre 45 que les idoles, Ésaïe ironise, il dit un ouvrier prend un tronc d'arbre, il prend une partie pour se chauffer, il prend une autre partie pour cuire son pain, et puis il a fait un dieu avec une autre partie, mais c'est ridicule. Mais une fois qu'on est dedans et que tout le monde pense comme ça, c'est vraiment très difficile de dire autre chose et de penser autre chose. Et c'est là tout l'enjeu que Paul dit dans les Romains, chapitre 12, quand il dit ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, tout ce qui est bon, agréable et parfait. Et qu'il faut que l'on se laisse transformer par Dieu et non pas se conformer à ce que peuvent penser et faire les autres. Donc, dans ce chapitre, j'ai trouvé deux versets qui résument en quelque sorte la pensée de ceux qui croient en l'Éternel et ceux qui ne croient pas en l'Éternel. D'abord, le premier verset clé, c'est dans le chapitre 46 et le verset 9. Il dit, souvenez-vous, en effet, c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Donc, déjà il y a 15 jours, on a lu tous ces versets au chapitre 44 et 45. Et je vais les relire, parce que c'est un martel. Il faut que ça rentre dans notre cerveau. Si Dieu l'a répété tellement de fois, c'est que c'est important. Donc, je vais simplement lire ces versets et on doit se laisser interpeller. Je ne vais pas dire chaque fois, mais vous pouvez les suivre, ils sont tous là. Donc, je commence avec le chapitre 44, 6. Voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui la rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Puis je passe au chapitre 45. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. C'est chez toi seulement que se trouve Dieu, il n'y en a pas d'autre. C'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Au verset 21. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi, je suis le seul Dieu juste et qui sauve. En effet, c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. On va dire que Dieu insiste. Tellement de fois, donc je reviens au chapitre 46 parce que c'est le chapitre de ce matin et je relis ce verset. Je suis Dieu, personne d'autre n'est comparable à moi. C'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Que disaient les Babyloniens? Autre verset clé, parce que c'est eux qui disent autre chose et par deux fois. Au chapitre 47, ils disent, il n'y a que moi et personne d'autre. Donc, chapitre 47 et verset 8, écoute donc, toi qui t'assieds pleine de confiance et qui dit en ton cœur, il n'y a que moi et personne d'autre. Et au verset 10, tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais, personne ne me voit, il n'y a que moi et personne d'autre. Voilà, on voit l'enjeu. Est-ce qu'il y a un seul Dieu? Il n'y en a pas d'autre? Ou est-ce qu'on dit, il n'y a que moi et personne d'autre? Voilà l'enjeu de ces deux chapitres. Alors, on va les regarder un petit peu plus en détail, mais dans l'ordre inverse. On va d'abord parler on va commencer au chapitre 47 et on va regarder le chapitre 46 après. Donc, le chapitre 47. D'abord, au verset 1 et 3. C'est le sort de Babylone. Descends et assieds-toi dans la poussière, fille de Babylone. Assieds-toi par terre, faute de trône, fille des Babyloniens. En effet, on ne t'appellera plus délicate et raffinée. Prends le moulin et moule de la farine. Retire ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera dévoilée, ta honte sera exposée. J'exercerai ma vengeance sans aucune opposition. Donc ça veut dire que c'est une image des femmes délicates du harem du roi qui sont obligées de relever la robe et de moudre la farine. C'était le travail des esclaves. Parce que le peuple va être vaincu. Donc, il n'y aura plus de privilèges. Donc, on l'appelait délicate et raffinée, mais ce ne sera plus le cas. Et puis, il y a la maltraitance du peuple de Dieu. Je saute le verset 4 et je lis le verset 5 à 7. Assieds-toi en silence et enfonce-toi dans les ténèbres, fille des Babyloniens, car on ne t'appellera plus souverain des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple. Donc c'est Dieu qui parle. Il était irrité contre le peuple d'Israël. J'avais déshonoré mon héritage. Je les avais livrés entre tes mains. Mais tu n'as montré aucune compassion pour eux. Même aux vieillards, tu as très lourdement fait ressentir ta domination. Tu disais, je serai toujours souveraine à tel point que tu n'as rien pris de tout cela à cœur. Et tu ne t'es pas rappelé que cela prendrait fin. Donc, en un mot, Dieu a utilisé les Babyloniens pour emporter son peuple d'Israël, de Jérusalem, jusqu'à Babylone. C'était le plan de Dieu pour que son peuple se rende compte qu'il s'était détourné de Dieu, qu'il se repente, qu'il change d'avis, qu'il rejette l'idolâtrie et c'est à Babylone qu'ils ont compris ça. Mais Dieu en veut aux Babyloniens qui disent « Mais vous n'avez pas eu compassion, vous avez traité le vieillard avec violence, tu n'as pas compris que ça prendrait fin. » Et ça va prendre fin. C'est ça d'ailleurs qu'on a étudié à notre République du mercredi soir. C'est pour ça que je me suis trompé tout à l'heure, parce que c'était en fait les Perses qui sont venus, et qui ont vaincu les Babyloniens. Et donc, c'était la fin du règne de Babylone. Il y aura donc une fin. Mais, avant, je vais dire, il y aura une fin. Versets 8 à 11. Écoute donc, amatrice de plaisir, toi qui t'assieds pleine de confiance et qui dis dans ton cœur, il n'y a que moi et personne d'autre. Je ne serai jamais veuve, je ne perdrai jamais d'enfant, mais ces deux souffrances, la perte d'enfant et le veuvage, t'atteindront en un instant, en un seul jour, et te frapperont de plein fouet, malgré tous tes rites de sorcellerie, malgré toute la puissance de tes pratiques magiques. Tu avais confiance dans ta méchanceté et tu disais, personne ne me voit. Ce sont ta sagesse et ton savoir qui t'ont égaré, t'ont amené à dire dans ton cœur, il n'y a que moi et personne d'autre. Mais le malheur te frappera sans même que tu le vois surgir. Le désastre tombera sur toi sans que tu puisses l'écarter. La dévastation fondra sur toi tout à coup sans que tu t'en aperçoives. Donc c'était la victoire du roi des Perses et tout l'empire de Babylone tombe. Mais est-ce que vous avez vu quand même une incohérence dans le comportement des Babyloniens? Parce que deux fois ils disent « Il n'y a que moi et personne d'autre ». Vous vous rappelez les débuts? Baal et Nebo. Donc ils disent « Il n'y a que moi », mais en même temps, ils cherchent l'appui de ces divinités. C'est incohérent quelque part. Ils disent « Voilà, c'est par ma propre force que j'ai réussi à bâtir un très grand empire, mais en même temps, tous les ans, il sortait les statues de Nebo, de Marduk, il les promenait dans la ville, il faisait la fête, il demandait que leur décret soit favorable, etc. Mais c'est incohérent, quelque part. Donc la confiance des Babyloniens placée en leur dieu et leurs acolytes, donc cette confiance ne les sauvera pas. Et c'est ça que l'on va lire dans à la fin de ce chapitre. Donc je lis à partir, je n'ai pas mis les versets, c'est à partir du verset 12. Continue donc tes pratiques magiques et tous tes rites de sorcellerie avec lesquels tu t'es fatigué depuis ta jeunesse. Peut-être pourrais-tu en tirer profit, peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es épuisé à force de consulter les devins qui se présentent donc et te sauvent, les spécialistes du ciel, ceux qui observent les astres, ceux qui sont censés annoncer chaque début de mois ce qui doit arriver. Mais en réalité, ils sont pareils à de la paille. Le feu les brûle entièrement. Ils ne pourront pas échapper aux flammes. Ce ne sera pas un simple feu de braise qui permet de se réchauffer, ni un feu près duquel on s'assied. Voilà tout ce que peuvent t'apporter ceux que tu t'es fatigué à consulter. Ceux qui ont fait des affaires avec toi depuis ta jeunesse se perdront chacun de leur côté. Il n'y aura personne pour te sauver. Donc, comme j'ai dit, on est dans l'incohérence. On dit, je me l'ai éprouvé tout seul, mais j'ai quand même l'aide de ces devins, de ces magiciens, de ces divinités, etc. C'est incohérent. Et on peut dire dans un sens qu'on n'est pas trop loin de cela aujourd'hui. Les gens disent « je me débrouille tout seul » et après ils cherchent tous les moyens à essayer de réussir après tout cela. Aujourd'hui on peut appeler ça le développement personnel ou je ne sais pas quoi. Comment faire ceci, comment faire cela. Ça m'amuse d'aller des fois dans les librairies, il y a des rayons entiers de livres. Comment mieux faire ceci, comment mieux faire cela. Toujours au singulier d'ailleurs. Donc on se tire d'affaire tout seul, si possible. Mais malgré tout, on se rend compte qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et je vais revenir à ça tout à l'heure avec le chapitre 46. Et finalement, cette crainte inavouée de ne pas y arriver les pousse à demander en fait l'aide de quelqu'un quelque part, en dehors d'eux-mêmes. Et parfois c'est le sauveur philosophique, tout d'un coup le best-seller qui est tiré à des millions d'exemplaires, voilà je vais tout expliquer, ou le sauveur politique, et quand le sauveur politique n'arrive pas, bah on va en chercher un autre, mais c'est sans fin, depuis des millénaires. Donc, tout cela ne sauvera pas, il n'y aura personne pour te sauver. Alors, revenons au chapitre 46. Et là, il y a déjà quelque chose au chapitre 47 d'abord. Hein, il y a un verset qu'on n'a pas lu au chapitre 47, verset 4. « Celui qui nous rachète s'appelle l'Éternel, le maître de l'univers, c'est le Saint d'Israël. » Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas les idoles, c'est le Saint d'Israël, le maître de l'univers, l'Éternel. Ça veut dire qu'il existe d'éternité en éternité, il n'a jamais changé, il est toujours là. Et celui qui le rachète ou qui libère. Alors, les versets 3 et 4 sont très intéressants. Parce qu'on vient de lire au verset 1 et 2, c'est le début et mon entrée en matière, qu'il fallait porter ces idoles pour les faire promener dans la ville. Et Dieu dit, ça ne sert à rien parce que c'est moi qui vous porte, peuple d'Israël. C'est tout le contraire. C'est Dieu qui nous porte, ce n'est pas nous qui portons l'idole. Donc, je vais lire les versets 3 et 4. Écoutez-moi, famille de Jacob, vous tous qui restez de la communauté d'Israël, je me suis chargé de vous depuis le ventre de votre mère. Je vous ai porté dès avant votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Comme j'ai déjà fait, je veux encore vous porter, vous soutenir, vous préserver. Voilà, c'est tout le contraire. C'est Dieu qui nous porte si on se tourne vers lui. Donc, quelques personnes ici qui ont des cheveux blancs, c'est une gloire. Parce que c'est dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Donc voilà, vous pouvez vous identifier à cette promesse sans difficulté. Dieu nous porte depuis le ventre de notre mère jusqu'à notre vieillesse, si on se tourne vers lui. Je trouve ça incroyable. Je pense que chacun de nous ici, à un certain moment, on était dans le ventre d'une personne. Je ne m'en souviens pas. Vous non plus. Mais on était là, on est venu au monde. Chacun de nous, je pense, on est venu au monde, on a commencé à pleurer. Sinon, la sage-femme donne une tape pour qu'on pleure. Chacun de nous, on a grandi, on a appris à parler, on a appris à marcher. On a appris à parler, on a appris à dire maman. Il y a un enfant ici qui nous le rappelle. Tu vous entends, maman. On a appris ça, chacun de nous, et nos parents étaient fiers. Ah, à un certain moment, peut-être, la maman de Jean-Claude a dit, il a dit maman. Il était toute fière. Et Dieu dit, je vous ai porté. Et je vous soutiens et je vous préserve pendant tout ce temps-là si vous tournez vers moi. C'est une promesse extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est à ce moment-là que Ésaïe ironise de nouveau un petit peu au verset 5 et 8 comme il avait fait au chapitre 45. Je lis. Donc les autres, donc les Babyloniens, ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance pour payer un orfèvre pour qu'il leur fasse un dieu. Puis ils se prosternent devant lui. Oui, il adore. Il le porte. Il le charge sur l'épaule. Il le dépose à sa place. Il y reste. Mais il est incapable de quitter cette place. On a beau crier, il ne répond pas. Il est incapable de vous sauver de votre détresse. Souvenez-vous de cela. Et montrez-vous courageux. Vous qui êtes des rebelles, réfléchissez. On a beau crier, il ne répond pas. Mais Dieu est unique. Ses projets se réaliseront. C'est ce qu'on va lire au verset 9 à 11. Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera, je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie, d'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je mettrai en œuvre. Donc ça, cet oiseau de proie, c'est Cyrus. Donc on a déjà parlé de lui, le roi des Perses qui vient vaincre les Babyloniens. Et pourquoi un oiseau de proie? Peut-être en partie parce que Cyrus avait comme emblème l'emblème d'un aigle. Donc c'était sa devise, l'aigle qui fond sur la proie. Et Dieu a dit à l'avance, donc 150 ans à peu près avant Cyrus que cela allait arriver. C'est pour ça qu'il dit, moi je sais dire à l'avance ce qui va se passer, alors que les divinités Baal et Nabo ne peuvent rien savoir. Et le verset 12 et 13, écoutez-moi, homme au cœur endurci, vous qui êtes éloigné de la justice, je fais approcher ma justice et n'est pas loin, je vais approcher mon salut, il ne se fera pas attendre, je mettrai la salut dans Sion, je montrerai toute ma splendeur à Israël. Et c'est ce qu'il a fait, parce qu'à cause de Cyrus, le peuple a pu revenir à Jérusalem, reconstruire le temple, sa gloire était de nouveau à Jérusalem. Dieu l'a annoncé à l'avance. Alors, puisqu'il a fait cela, c'est la raison pour laquelle on continue de lire Ésaïe. Il a pu annoncer les choses à l'avance, donc tout ce qu'il annonce, il annonce encore à l'avance en ce qui concerne l'éternité, il fera notre salut à nous. Le salut vient de l'éternité. Je reviens juste un moment avant d'apporter une conclusion. Je reviens au verset 7 pour dire que les Babyloniens portaient leur divinité sur l'épaule, ils déposaient à sa place, ils y restent. On a beau crier, il ne répond pas. Il est incapable de vous sauver de votre détresse. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il est important que nous vivions, nous, avec la confiance de Dieu, et qu'on pointe un petit peu du doigt le désespoir de ceux qui n'ont pas de Dieu, qui disent, c'est moi, il n'y a personne d'autre. Je crois d'ailleurs, j'ai cité il y a quelque temps, Jacques Monod, dans Le hasard des nécessités, donc livre philosophique, écrit déjà il y a 50 ans, mais qui a osé dire la réalité que tous les philosophes du XXe siècle ont dit. Je cite, « L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers, d'où il a émergé par hasard. Ni son destin, ni son devoir ne sont écrits nulle part. » Ça, c'est le désespoir des personnes qui naissent et qui meurent. Au milieu d'un univers immense, indifférent, personne ne dit quel est notre destin, personne ne dit ce qui est notre devoir, ce que l'on doit faire. Il n'y a plus de bien et de mal absolu, et les gens essaient de vivre avec cela, difficilement. Et c'est pour cela que tout comme les Babyloniens faisaient appel quand même à des divinités, malgré tout, on continue à faire appel à des grands principes, on dit « mes droits », les droits de l'homme. Mais les droits ne sont que le fruit du christianisme. On a voulu attaquer la racine. Les droits sont sortis de la moralité, de l'éthique chrétienne. On enlève les racines, il n'y a plus rien. Mais les gens commencent à faire appel, en quelque sorte, de façon détournée à Dieu, sans savoir qui il est. Alors, je relis aussi le verset 8, où Dieu dit « réfléchissez à cela ». Et ça rappelle ce qu'on a lu à l'étude publique mercredi soir, dans le prophète Agé qui a dit deux fois « réfléchissez-y ». Donc, à nous de réfléchir en tant que chrétiens et de demander aux gens de réfléchir autour de nous. Alors, je termine avec une conclusion un peu spéciale. Je vais revenir à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce texte, mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des quatre lois spirituelles. Bon, c'était un moyen d'évangélisation de Campus pour Christ, Agapé, souvent au siècle dernier, on disait les quatre lois spirituelles. Et c'est pas mal dans le sens où au moins on résume l'essentiel de la foi. Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Première loi spirituelle. Deuxième, l'humanité est souillée par le péché et est par conséquent séparée de Dieu. Ainsi, nous ne pouvons pas connaître le merveilleux plan de Dieu pour nos vies. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Troisième loi, Jésus-Christ est la solution de Dieu pour nous délivrer du péché. Par Jésus-Christ, nos péchés peuvent être pardonnés et notre relation avec Dieu rétablie. Quatrième loi spirituelle, nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ comme notre Sauveur afin de recevoir le don du salut et de connaître le merveilleux plan de Dieu pour notre vie. Bon, le merveilleux plan de Dieu pour notre vie, c'est un peu l'approche. Mais la réalité de ces quatre lois spirituelles, oui, on est coupé de Dieu. Il n'y a que Jésus qui est le Sauveur. Si nous croyons en lui, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et donc, il y avait des petits livrets que l'on pouvait montrer aux gens. Bon, Roselyne s'en souvient, voilà. Qui a entendu parler de ces quatre lois spirituelles? Il y a quelques-uns. Voilà. Bon, c'était, on va dire, au XXe siècle. Mais j'ai un ami qui a dit, non, il n'y a pas quatre lois spirituelles, il n'y a que deux. Il n'y en a que deux. Et quelles sont les deux lois spirituelles? Il y a un seul Dieu. Ce Dieu, ce n'est pas toi. Et ça se résume ce qu'il est en train de voir dans Ésaïe 46 et 47. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ce Dieu, ce n'est pas toi. Qui dit, il n'y a que moi et personne d'autre. Donc, est-ce qu'on va vivre notre vie en faisant confiance au seul Dieu vivant et vrai? Ou est-ce qu'on veut dire, je me débrouille tout seul? Ça, c'est la question. Donc, on revient à ces deux versets. C'est moi qui suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Ou il n'y a que moi et personne d'autre. Donc, je vais donner une petite minute de réflexion. Qu'est-ce que cela implique pour moi? Est-ce que je suis trop influencé par ma culture, par mon entourage, par notre contexte? Rappelez la définition que je l'avais donnée de l'idole, là où je place mon affection et ma confiance plus qu'en Dieu. Voilà, je demande à chacun un moment de silence pour dire, est-ce que je vais vivre avec devise 46-9 et croire en ce Dieu unique, il n'y en a pas d'autre, ou est-ce que en vie sans le vouloir, il n'y a que moi et personne d'autre? Alors, moment de silence et de réflexion. Mm-hmm.